Merci d'écouter RFI. Il est 11h en temps universel, 21h à Tokyo.
RFI Midi. Victor Moria.
Et on commence avec le journal et les négociations pourraient reprendre entre Israël et le Hamas palestinien. Ce dimanche, le chef du Mossad doit rencontrer son homologue de la CIA ainsi que le premier ministre qatarien. Au même moment, un camion bélier a attaqué une station de bus devant une base des services de renseignements extérieurs israéliens, faisant au moins 24 blessés. Le premier ministre japonais perd son pari et sa majorité. Premier résultat sorti des urnes, nous serons en direct depuis Tokyo avec notre correspondant. Et puis en France, l'Assemblée fait une pause après 6 jours de débats houleux sur le budget et la Corée du Sud a rassemblé une grande messe homophobe dans les rues de Séoul.
RFI Midi.
Nous serons ensuite avec Nathalie Fleck, professeure des universités à Paris-Dauphine. Nous parlerons avec elle des influenceurs sur les réseaux sociaux, modèle économique et impact sur les jeunes et les sociétés. Dans cette deuxième partie d'RFI Midi, nous irons également en Australie où les habitants de la petite ville de Mania, au sud de Sydney, se battent pour préserver leur forêt. Enfin, zoom sur Anora, dernière palme d'or à Cannes, qui sort mercredi prochain en salle. Il faudra faire des concessions douloureuses pour libérer les otages retenus dans la bande de Gaza. Les mots ce dimanche de Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense. Tous les objectifs ne peuvent être atteints uniquement par des opérations militaires, dit-il. Une déclaration qui intervient alors que l'espoir renaît pour des négociations entre le Hamas palestinien et l'État hébreu. Après un an de guerre et de discussions infructueuses, le chef du Mossad doit rencontrer ce dimanche au Qatar son homologue de la CIA ainsi que le premier ministre qatari. Les pourparlers visent à amener Israël et le Hamas à accepter un cessez-le-feu à Gaza qui durerait moins d'un mois dans l'espoir qu'il débouche sur un accord plus permanent. Mais à Ramat HaSharon, le centre d'Israël, c'est justement devant une base des services extérieurs israéliens qu'un camion a percuté une station de bus faisant au moins 24 blessés, dont 4 dans un état grave. Selon la police, le chauffeur du camion a été neutralisé. Michel Paul.
Un attentat au camion bélier contre une station d'autobus, selon la police israélienne. Il s'agit bien d'une attaque terroriste, mais les enquêteurs affirment continuer à vérifier toutes les pistes. Le conducteur du camion a été neutralisé par des militaires sur place. Il s'agit d'un arabe israélien originaire du centre du pays. Sa famille affirme qu'il a perdu tout simplement le contrôle de son véhicule en raison d'une maladie dont il souffrait et que ce n'est pas du tout un attentat, mais bel et bien un accident. À retenir aussi le lieu de cette attaque, face à la base de Glilot au nord de Tel Aviv, la principale base du renseignement israélien. C'est ce site qui a été ciblé par des drones du Hezbollah et par des missiles balistiques en provenance d'Iran le 1er octobre dernier. Ils affirmaient viser le siège du Mossad et de la célèbre unité de guerre cybernétique, la 8200. Les médias ont interrompu la diffusion des cérémonies de la journée du souvenir des événements du 7 octobre, qui est marquée aujourd'hui ici en Israël, pour donner cette information. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Au Liban, l'armée israélienne affirme avoir visé des dizaines d'infrastructures du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth dans la nuit. Ce matin, le porte-parole de l'armée israélienne appelle les habitants de 14 villages du sud du Liban à évacuer au nord de l'Awali, affirmant que la troupe israélienne allait attaquer des infrastructures ou des combattants du Hezbollah. Le Hezbollah qui affirme, lui, avoir visé à 11h un rassemblement de soldats israéliens au nord-est de la localité de Manara, face à Houla, avec des drones en piqué faisant des morts et des blessés, mais aussi avoir bombardé une base militaire au nord de Haïfa, en Israël. À noter qu'une cargaison d'aide humanitaire offerte par la Jordanie a été réceptionnée ce matin à l'aéroport international de Beyrouth, selon l'Agence nationale d'information. C'est pourtant lui qui avait convoqué ces élections. Le nouveau Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a perdu son pari et sa majorité à la chambre basse du Parlement après les législatives de ce dimanche. Bonjour Frédéric Charles.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Tokyo. Frédéric, c'est une première depuis 2009.
Oui, et l'avenir politique du Premier ministre Shigeru Ishiba est menacé. Les Japonais sont en train de punir méchamment son parti libéral-démocrate, au pouvoir sans interruption ou presque depuis 1955. Nommé il y a à peine un mois par son parti à la tête du gouvernement, le Premier ministre Shigeru Ishiba cherchait à renforcer sa position au sein de son parti où il ne compte pas que des amis, par des élections anticipées afin, disait-il, que le gouvernement soit jugé par le peuple le plus tôt possible. Eh bien, le peuple japonais est en train de faire payer très cher au Premier ministre Ishiba et à son parti un scandale de caisse noire, de financement occulte du parti par lui-même, ses liens aussi avec l'Église de l'unification ou la secte Moon qui se trouve au cœur du pouvoir politique japonais. Une période d'incertitude s'ouvre au Japon à 9 jours de l'élection présidentielle américaine. Le gouvernement japonais risque d'être paralysé et de donner un sentiment de vide politique au Japon.
Merci Frédéric Charles, correspondant de Radio France Internationale à Tokyo. Aux États-Unis, on est à 9 jours de la présidentielle, le 5 novembre à New York. Les supporters de Donald Trump ont rendez-vous ce soir au légendaire Madison Square Garden. Et hier, Kamala Harris était à Kalamazoo, dans le Michigan, en compagnie de Michelle Obama. L'ancienne première dame s'est livrée à un discours grave, notamment sur l'avenir des femmes en cas de victoire du candidat républicain qui mettrait en danger, selon elle, le droit à l'avortement, notamment. Écoutez.
À tous ceux qui envisagent de ne pas participer à cette élection ou de voter pour Donald Trump ou un candidat d'un autre parti en signe de protestation parce qu'ils en ont assez, laissez-moi vous prévenir que votre colère ne sera pas sans conséquences. Si nous ne remportons pas cette élection, que ce soit votre femme, votre fille, votre mère, toutes les femmes, nous deviendrons les victimes collatérales de votre colère. Alors en tant qu'homme, êtes-vous prêt à regarder dans les yeux les femmes et les enfants que vous aimez et à leur dire que vous avez soutenu cette attaque contre notre sécurité ?
L'ancienne première dame américaine Michelle Obama en Géorgie, autre pays qui a eu des élections ce week-end. Les législatives ont officiellement été remportées par le parti au pouvoir, le rêve géorgien. 54% des voix contre 37,5% pour la coalition pro-européenne qui dénonce des élections volées et qui refuse de concéder sa défaite. Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, de l'OTAN ou encore d'autres organes de l'Union européenne ont également affirmé que le scrutin avait été entaché par des inégalités entre candidats, des pressions et des tensions. Cette défaite pourrait éloigner la petite République du Caucase d'une adhésion à l'Union européenne et au contraire la rapprocher de Moscou. En France, les débats sur le budget 2025 marquent une pause dans l'hémicycle après 6 jours d'échanges parfois houleux. Victorien Villaume, les débats sur la partie recette du projet de loi se sont achevés hier samedi, tard dans la soirée.
Qui est contre ? Il est rejeté, mes chers collègues. La séance est levée.
Il est pile minuit dans l'hémicycle quand la présidente de l'Assemblée annonce la fin des débats. Les députés, comme c'était à prévoir, ne sont donc pas allés au bout de l'examen du projet de loi. Plus de 1500 amendements doivent encore être examinés. Résultat, pas de vote solennel mardi et des débats qui reprendront vraisemblablement dans une semaine. Alors, contrairement à ce que craignaient les oppositions, le gouvernement a donc bien laissé, pour l'instant, les débats se dérouler. Une façon pour Michel Barnier d'afficher l'apaisement qu'il prône depuis son arrivée à Matignon. On ne cède pas à la facilité du 49-3, défend d'ailleurs encore la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon ce dimanche. Mais le Premier ministre veut peut-être surtout gagner du temps pour pouvoir dire au moment opportun « Regardez ce que les oppositions ont fait du texte, regardez cette surenchère fiscale, je n'ai plus le choix ».
Victorien Villot. Mais pour terminer, une messe géante pour expier les péchés du pays a été organisée par l'église chrétienne sud-coréenne. Près d'1 500 000 personnes se sont rassemblées en ligne et dans le centre-ville de Séoul pour dénoncer notamment les récentes décisions de justice autorisant les couples homosexuels à bénéficier de la sécurité sociale. Reportage, c'est Lio Fioretti.
Une foule immense, des chants religieux et des banderoles précisant que la lutte contre les homosexuels est une croisade divine. Bienvenue à la grande messe chrétienne de ce dimanche à Séoul. Tous sont venus dénoncer une dérive dangereuse de la société, comme l'explique le pasteur Jong Sun-jin, organisateur de l'événement.
Ils veulent détruire la famille traditionnelle. Cette jurisprudence de juillet sur la sécurité sociale pour les couples homosexuels, c'est la porte ouverte à tous les excès. Bientôt, ils vont vouloir légaliser leur mariage.
La Corée du Sud ne dispose pas encore de loi contre la discrimination en raison de la sexualité. Pour Daniel, coordinateur de ce mouvement chrétien, ce texte pourrait être une entrave à sa liberté d'expression.
Les législateurs essayent de voter des lois contre la discrimination, pour l'égalité. Ce que nous combattons, ce sont ces lois qui nous empêchent, nous, chrétiens, de dire ce que nous pensons. Nous pensons que l'homosexualité est un péché. Nous espérons qu'ils se repentent de leur péché. On doit être libre de le dire.
D'après différents sondages, en moyenne 50% des personnes LGBT en Corée du Sud disent avoir été victimes de discrimination en raison de leur sexualité.
C'est Lio Fioretti, RFI, 13h10, ici à Paris, 2h de moins. En temps universel, c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous. RFI Midi continue.
Victor Moria.
Avec à suivre dans les 20 prochaines minutes le rendez-vous des sports, week-end chargé en football et en basket. Victor Missistrano avec nous dans un instant. Et puis nous recevrons Nathalie Fleck, professeure des universités à Paris Dauphine PSL. Nous parlerons avec elle des influenceurs sur les réseaux sociaux, modèles économiques et impact sur les jeunes et les sociétés. Et enfin, pour finir, nous irons en Australie où les habitants de la petite ville de Mania, au sud de Sydney, se battent pour préserver leur forêt. Et puis zoom sur Anora, la dernière palme d'or au Festival de Cannes qui sort mercredi prochain en salle. Bonjour Victor Missistrano.
Bonjour Victor, bonjour à tous.
Et c'est très chargé sur les pelouses européennes de football et ça a commencé hier soir à Madrid par une incroyable humiliation.
Le score est lourd, le FC Barcelone est venu remporter le Classico 4-0. Les Merengues avaient pourtant dominé la première période sans toutefois trouver la faille. Kylian Mbappé a cru le faire, but refusé pour hors-jeu. L'attaquant français a vécu un véritable cauchemar, piégé par la défense catalane et 8 fois signalé hors-jeu dans ce match. Tout s'est accéléré en seconde période avec un doublé de Robert Lewandowski en 2 minutes, puis un but de Lamine Yamal et enfin le Brésilien Rafinha qui a conclu ce festival d'un lob magnifique. Après avoir écrasé le Bayern Munich en Ligue des Champions, le latéral gauche Alejandro Balde et ses coéquipiers terminent une semaine de rêve.
Oui, c'était un match incroyable, surtout parce qu'on prend les 3 points dans un stade aussi difficile que celui-ci. Je suis très heureux de cette victoire. Gagner ici, c'est toujours une immense joie. La semaine a été incroyable. Nous avons été clairs dès le départ. On voulait gagner les 3 matchs contre Séville, le Bayern Munich et Madrid. Et c'est ce qui s'est passé. Nous allons continuer comme ça parce que la saison est longue et qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce soir, je n'ai pas été surpris par la faiblesse du Real. J'ai été surpris par notre force. On a joué à un grand niveau, c'est ça qu'on doit retenir ce soir nous concernant.
Alejandro Balde au micro de Pierre Chaperon. En haut du classement, le Barça creuse le trou, 6 points d'avance désormais sur le Real Madrid.
Et d'un classico à l'autre, place au classique, à la française, ce soir au stade Vélodrome, au MPSG.
Oui, ce choc toujours très attendu l'est encore plus cette fois-ci car il semble un peu plus équilibré que les autres années. Les deux équipes sont en forme en championnat, les Marseillais pointent à la 3e place à 3 longueurs du leader parisien. Ils peuvent compter sur leur nouveau milieu de terrain formé au PSG, Adrien Rabiot, qui disputera son premier classique sous les couleurs de Marseille. Grande première aussi pour Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien s'attend à une grosse bataille tactique.
C'est vraiment difficile de défendre contre cette équipe parce que si on bloque l'axe, le milieu de terrain, on risque de laisser Dembélé et Barcola dans les couloirs en 1 contre 1. Et si nous bloquons les ailes, cela leur donne plus de possession de balles. Il ne faut pas oublier que nous sommes l'OM et que nous voulons avoir le ballon. Ce sera difficile, il faut respecter ces champions de France. Quand on signe à l'OM, il faut avoir l'ambition de gagner ce genre de match. Sinon, autant changer de club.
L'entraîneur de l'OM avance ce match contre le PSG, coup d'envoi 19h45 TU. Hier soir, Lille est allé gâcher la fête à Lens. Vainqueur cette semaine de l'Atlético Madrid, le LOSC a arraché le derby du Nord 2-0.
Et autre gros affiche aujourd'hui en Italie.
L'Inter Milan, 2e, reçoit la Juventus Turin, 3e. Un petit point sépare les deux clubs qui vont tenter de recoller à Naples. Inter-Juve, le coup d'envoi, c'est à 16h, temps universel. Et puis, comment ne pas évoquer le duel au sommet, 30 minutes plus tôt, à l'heure du thé en Angleterre, Arsenal-Liverpool. Les Reds doivent s'imposer à l'Emirates pour repasser devant Manchester City en tête du classement.
Et du basket pour terminer, aux États-Unis, retour sur la première victoire de Victor Wembanyama dans cette nouvelle saison de NBA.
Et décidément, ça fait beaucoup de Victor. Après une défaite au premier match, Wemby et les San Antonio Spurs ont cette fois battu Houston 109 à 106. Ça y est, le jeune prodige français est lancé. Match de patron, 29 points pour lui, co-meilleur marqueur du match.
Et les Victor, c'est souvent ça, c'est des patrons. Merci beaucoup Victor Missistrano, bonne journée à vous. C'est l'heure de l'invité, 13h15 ici à Paris.
RFI, Le Monde à midi.
Nathalie Fleck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure des universités à Paris Dauphine PSL, spécialiste en marketing et en psychologie du consommateur. On va évoquer avec vous l'impact des influenceurs sur la jeunesse du monde et particulièrement sur celle des pays du Sud. Alors de manière générale, pour commencer, est-ce qu'on peut dire qu'au XXe siècle, les jeunes rêvaient de devenir acteurs, chanteurs ou footballeurs et que de nos jours, on peut ajouter à cette liste le statut d'influenceur ?
Alors oui, tout à fait. C'est vrai que avec l'avènement de cette activité, parce que j'ai du mal à dire métier totalement, on va en parler, oui. Mais avec cet engouement en fait pour les influenceurs et qui provient en grande partie du fait que d'internet hein, et de la possibilité de la visibilité que leur donnent les réseaux sociaux. C'est vrai que ça crée un engouement aussi chez les jeunes. Ils ont l'impression qu'on peut, de façon assez rapide et assez facile, devenir, j'allais dire, riche et célèbre. Ce qu'on voit, c'est que la réalité est tout autre. Mais les influenceurs ont tendance à présenter une vie idéalisée, j'allais dire fantasmée, une vie de rêve. Et bien sûr, ça crée des envies, forcément.
Mais du coup, c'est effectivement, ça crée des envies parce que ceux qui sont sur le devant de la scène et sur le devant d'Internet gagnent de l'argent. En tout cas, c'est un domaine qui s'est professionnalisé ces dernières années. Influenceur à influenceuse, c'est devenu un véritable gagne-pain, que ce soit avec soit les revenus tirés directement des réseaux sociaux, qui sont peut-être pas les plus importants, mais aussi les marques qui sont dérivées ensuite de cette influence obtenue grâce aux abonnés, aux followers.
Alors oui, tout à fait. Alors les marques, bien sûr, s'y sont intéressées parce que notamment lorsqu'elles cherchent à atteindre, à toucher en fait les jeunes, c'est très difficile. On sait que les jeunes ne regardent plus les médias classiques. En revanche, ils sont toute la journée sur leur smartphone et sur Internet. Donc c'est sûr que c'est un moyen pour les marques de pouvoir atteindre les jeunes. En plus, sans parler elles-mêmes, en passant en fait par une tierce personne, ce qui donne de la crédibilité au discours, puisque on sait bien que dans la publicité, les marques vont chercher à convaincre leur cible en fait de quelque chose. Là, lorsque c'est un influenceur ou une influenceuse qui parle, on a le sentiment que c'est quelqu'un d'indépendant qui va donner un avis beaucoup plus crédible. Et donc pour les marques, c'est très tentant de passer par ces influenceurs. C'est souvent beaucoup moins coûteux que la publicité classique. Et voilà, donc c'est une solution, surtout quand on cible en fait les jeunes.
Est-ce que vous faites la différence entre influenceur et créateur de contenu? Parce que les deux sont devenus des activités à part entière. Certains disent que c'est un métier, mais effectivement, on n'est peut-être pas tout à fait sur la même production, en tout cas.
Alors, j'ai quand même tendance à penser qu'on parle de créateur de contenu pour enjoliver, enfin pour donner un côté, enfin un aspect complètement positif à cette nouvelle activité. Mais en réalité, les influenceurs créent du contenu puisqu'ils vont créer des vidéos, ils vont tester les produits parfois en direct, ils vont voilà. Alors beaucoup sont experts dans leur domaine et il y a des influenceurs qui restent d'ailleurs indépendants des marques, qui ont une véritable expertise dans un domaine et dont le but est quasiment d'être dans une forme d'économie collaborative où ils vont partager leur expertise et leur savoir. Par exemple, dans le domaine, je sais pas, des voyages, de la photographie, on trouve des gens tout à fait désintéressés. Et au début, l'influence, c'était ça. Hein, c'était des gens très experts qui avaient envie de partager avec le plus grand nombre leur expertise et leur savoir. Et c'était en fait des leaders d'opinion, si vous voulez.
Et est-ce que ce sont des ressorts qu'on retrouve à travers toute la planète, qui sont les mêmes, alors quel que soit le domaine, hein, la mode, le sport, le lifestyle, les voyages, comme vous l'avez dit, est-ce qu'à travers toutes les différentes sociétés, civilisations, on retrouve ces mêmes ressorts sur Internet?
Alors, très honnêtement, je ne connais pas l'ensemble des influenceurs dans tous les pays, mais on a quand même le sentiment qu'il y a une forme de codification. Il y a des codes qui sont repris dans la façon de s'exprimer, dans le cadrage, dans ce qui est dit même, enfin, dans le fond. Oui, il y a des codes qui sont mis en place et qui sont repris du coup par l'ensemble des influenceurs dans tous les pays.
Et ces codes, ils viennent d'où? Ils viennent plutôt des pays occidentaux, des sociétés libérales, capitalistes?
Alors oui, c'est vrai que ça vient en fait des premiers influenceurs sur Internet, hein, qui ont finalement mis en place une façon de faire qui a été reprise par la suite. Donc oui, tout à fait.
On va juste terminer cette interview. Il nous reste un peu moins d'une minute. Est-ce que certains pays cherchent à contrôler leurs influenceurs ou en tout cas à promouvoir à travers eux un modèle patriote ou moral? Vous parliez des marques tout à l'heure, mais est-ce que les États s'intéressent à cette question-là?
Alors, je n'ai pas d'exemple, à vrai dire. Mais alors, j'ai un exemple. Ce n'est pas vraiment un pays, mais c'est assez amusant. La Bretagne utilise une influenceuse virtuelle, donc qui n'existe pas, qui s'appelle Anne Kerdy, qui a un compte. Donc, il est clairement dit qu'elle est créée par l'IA, hein, par l'intelligence artificielle, et elle promeut en fait la Bretagne. Donc elle fait des campagnes pour promouvoir en fait la région.
D'accord. Parce qu'à travers ce moyen-là, évidemment, on peut toucher la jeunesse et on peut toucher et promouvoir des choses que peut-être les jeunes n'auraient pas eu accès sans ça. Merci beaucoup, Nathalie Fleck, d'avoir été avec nous dans RFI Midi. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à Paris Dauphine, PSL, spécialiste en marketing et en psychologie du consommateur. On part en Australie pour le reportage international dans une région très sévèrement impactée par les gigantesques feux de forêt qui ont ravagé le pays il y a 4 ans. Nous sommes dans une petite ville, Mania, au sud de Sydney, où les habitants ont décidé de se mobiliser pour protéger une forêt, la seule épargnée par ces incendies dévastateurs. Problème, cette forêt pourrait être entièrement rasée pour y construire des maisons de vacances. Reportage sur place, Grégory Pless.
4 ans après les plus graves incendies qu'ait connus l'Australie, ces stigmates sont encore très visibles sur des kilomètres. Des troncs d'arbres calcinés, recouverts partiellement par de la végétation, mais d'où presque toutes les espèces animales ont disparu. C'est d'ailleurs ce qui avait choqué Lorraine quand elle avait enfin pu rentrer chez elle à Manana.
When we came back, it was absolutely silent.
Quand on est revenu, c'était le silence total. Il n'y avait plus d'oiseaux, on n'entendait plus les bruits des insectes, et les kangourous qui nous rendaient visite chaque jour avaient disparu.
Les feux dans ce secteur ont en effet ravagé 95% du parc national qui borde Manana. Mais par miracle, une petite forêt de 20 hectares a été épargnée. Elle est logiquement devenue un refuge pour les animaux ayant échappé aux flammes. C'est ce que nous explique Lex, il est sauveteur animalier.
Les zones qui ont brûlé en Nouvelle-Galles du Sud sont plus grandes que certains pays d'Europe. Mais cette petite forêt, elle est un petit refuge qui est toujours là et qui est pleine d'animaux sauvages.
Bill le confirme en tout point, il est le président de l'association Manana Matters.
Si vous regardez là-haut dans cet arbre, il y a un creux où vivent des mammifères arboricoles. Et ces griffures-là, vous les voyez ? Ça, c'est quand des opossums volants atterrissent sur l'arbre. Cette forêt est pleine de ces exemples et pourtant elle va être détruite.
Il y a quelques jours, en effet, le ministère de l'Environnement a délivré à un promoteur l'autorisation de raser cette forêt pour y construire environ 150 logements de vacances. Une décision incompréhensible, selon Bill.
Une partie de cette forêt est considérée par le gouvernement fédéral comme un habitat en danger d'extinction imminent. Mais il va quand même être rasé par des bulldozers. Quelle est la logique dans tout ça ?
Les autorités elles-mêmes semblent avoir du mal à la trouver, chacun du niveau fédéral au conseil municipal local se renvoyant la balle. Neville, un autre membre du collectif, se désespère du manque d'intérêt des autorités pour la question environnementale.
On parle du futur de nos enfants, de mes petits-enfants. Et j'aimerais que cette forêt reste telle qu'elle est. On finira par apprendre de nos erreurs, mais sûrement trop tard.
En attendant, le promoteur a positionné ses premières machines de chantier. Grégory Pless, Sydney, RFI.
h 23, ici à Paris, la chronique défense du jour consacrée à FN, la fabrique nationale belge. Dans la région de Liège, elle est spécialisée dans les armes automatiques et les mitrailleuses. Elle est déjà un fournisseur privilégié de l'armée de terre française et l'entreprise pourrait être amenée à jouer un rôle plus important encore dans le paysage industriel français, notamment grâce à sa capacité à produire des munitions de petit calibre. FN Herstal, peu connu du grand public, a exceptionnellement ouvert ses portes à quelques journalistes, dont notre chroniqueur Franck Alexandre pour Ligne de Défense.
Donc ici, on est dans la cour principale de la FN Herstal. Donc où derrière nous, on a un bâtiment de 1906, donc qui date de la création de la FN Herstal. On va aller ici à droite.
Et nous voilà dans le Saint des Saints, la fabrique hautement sécurisée d'armes à feu FN, un immense complexe industriel de 13 hectares, 1500 salariés et un dédale d'ateliers. Frédéric est notre guide.
Avant tout, la FN Herstal, c'est un centre d'usinage. L'armurerie, ça reste de la mécanique de haute précision.
Canon culasse crosse, les armes prennent corps sur les tables d'assemblage. Monter une mitrailleuse, c'est presque de la haute horlogerie, insiste le directeur commercial Henri Deharen.
Les tolérances sont extrêmement précises. Tout ce qui est pièces mobiles pour un fusil d'assaut ou une mitrailleuse doit être d'une immense précision. Nous devons travailler à des produits qui ont une durée de vie longue et une très haute fiabilité.
et chaque arme doit passer une rigoureuse batterie de tests.
Chacune des armes individuellement va être testée dans les tunnels de tir là-bas derrière les murs, et puis elles vont être redémontées, huilées, et puis remontées, emballées. Et la dernière étape, c'est la douane, et puis ça part pour l'armée partenaire.
Quant aux munitions, elles sont fabriquées à Zutendal, à 40 km d'Erstal. Il y a également le champ de tir.
Lorsqu'on appuie sur la détente, on va en fait libérer l'ensemble des pistes mobiles.
Fusils d'assaut et de précision SCAR, mini-mitrailleuse MAC 58, pistolet mitrailleur, l'entreprise belge figure dans le top 4 du marché des armes de petit calibre. Les armes automatiques, c'est son ADN. FN équipe 80% des pays de l'OTAN. Henri de Harennes.
Alors FN Erstal a été créé au 19e siècle, au départ pour équiper l'armée belge. L'entreprise est devenue un des leaders mondiaux dans son domaine, le domaine des armes légères. Alors on développe énormément de choses, ça peut être une amélioration des armes à feu elles-mêmes, et puis également des développements, par exemple dans le domaine technologique. Aujourd'hui, on ajoute par exemple sur les armes des calculateurs balistiques qui vont permettre par exemple à des tireurs de précision, comme ceux de l'armée française, de tirer de manière extrêmement précise. On voit à quel point la défense redevient une question stratégique au cœur des décisions des États. C'est le retour d'une réflexion à long terme sur les questions de défense.
La France, qui ne produit plus ni fusils ni munitions de petit calibre, est un client fidèle de la FN Erstal. Un partenariat est d'ailleurs à l'étude pour produire des munitions de la fabrique belge et ainsi rebâtir en France une capacité militaire critique qui, à ce jour, fait cruellement défaut.
Franck Alexandre pour Ligne de Défense.
RFI Midi.
C'est le film qui a décroché la Palme d'Or au dernier Festival de Cannes. Anora sort mercredi prochain en salle. Présenté comme un Pretty Woman moderne et déjanté, ce film de Sean Baker suit le parcours d'une stripteaseuse qui pense échapper à sa condition en se mariant à un jeune russe richissime. Mais rien, évidemment, ne va se passer comme prévu. Sophie Torlotin.
Anora survit comme entraîneuse dans un bar à hôtesse de New York. La vie de cette cendrillon des temps modernes bascule quand elle fait la connaissance du fils d'un oligarque russe.
Tu accepterais d'être exclusivement avec moi ?
J'en veux 15. Cash et payé d'avance.
Pour ce rôle, Mikey Madison a travaillé la langue russe et le dialecte ouzbek et bien plus encore.
J'ai rencontré plusieurs jeunes femmes merveilleuses consultantes sur le film. Elles m'ont fourni beaucoup de détails concrets sur le métier de stripteaseuse. J'ai aussi bénéficié d'une préparation physique. J'ai pratiqué la pole dance, la danse érotique, le twerk, tout ce que l'on voit dans ces clubs. Je me suis entraînée pendant plusieurs mois. J'ai même installé une barre de pole dance dans mon salon de façon à ce qu'à l'image, on ne voit pas l'effort.
Le film commence comme un conte de fées trivial et pétaradant, mais se transforme en cours de route.
Pendant 2 semaines, je te surveille pas et tu te maries avec une prostituée.
Car les riches parents russes ne voient pas d'un bon œil le mariage de leur rejeton avec une stripteaseuse. Ils envoient des hommes de main pour faire annuler l'union. Mais entre-temps, Ivan a disparu et voici les gros bras flanqués d'Anora le recherchant dans les rues new-yorkaises.
On ne va pas divorcer, fils de pute !
Le réalisateur Sean Baker, qui explore depuis plusieurs années le milieu des travailleurs du sexe aux États-Unis, entraîne les spectateurs dans un grand huit émotionnel.
Les 3 premiers quarts d'heure, les spectateurs pensent voir une comédie romantique dans l'univers des super riches. Et puis ensuite, ils vont découvrir la réalité pendant l'heure et demie qui suit. Cela m'intéressait d'installer des attentes et puis de les tailler en pièces. Je propose au public différents genres en espérant qu'ils me suivent dans ce projet.
Venez pas me dire que vous êtes fait tabasser par une gamine !
Non !
Mikey Madison incarne une Anora surprenante, bien décidée à ne pas se laisser faire.
Je voulais qu'elle soit la plus authentique possible. Personne n'est tout d'un bloc, seulement une battante ou une victime. Elle est quelque part entre les deux. J'aime qu'elle se batte. Et c'est drôle, mais elle est aussi vulnérable.
Vous êtes une bande de
cinglés !
S'il te plaît !
La Palme d'Or consacre fort à propos ce réjouissant film de la scène indépendante américaine qui subsiste à l'écart d'Hollywood et des franchises de super-héros.
Sophie Thorlotin, Anora, c'est donc dans toutes les salles du monde, de salles de cinéma du monde. Et ça a été donc le film qui a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes. RFI Midi, c'est terminé pour le moment. Enfin non, c'est terminé pour aujourd'hui, mais ça revient demain à la même heure, 13h. Merci à Guillaume Buffet qui était à la réalisation. Merci également à Mona Elbana et Sylvie Noël à la rédaction en chef. Dans quelques secondes, on retrouve Nemo en piste pour Afrique Midi.